Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Chers frères et sœurs, cette phrase de l'Épître aux Hébreux ne sonne pas vraiment telle une bonne nouvelle. Difficile là aussi d'y entendre le moindre évangile. Elle semble plutôt accréditer les critiques qui sont souvent faites à l'endroit de la religion. La religion est une chose épouvantable, qui crée du malheur, qui provoque des conflits à n'en plus finir. Alors je ne ferai pas ce matin une lecture historique et critique de ces reproches que l'on fait à la religion, qui, par bien des aspects, ne sont pas dénués de réalité. J'aimerais plutôt que nous entendions ce que cette phrase peut exprimer de vérité, sans que nous soyons pour autant affligés par le caractère un peu dramatique de cette affirmation, sans pour autant que cela signe la condamnation de Dieu, de la foi ou de la religion. Et j'aimerais tout d'abord que nous nous intéressions à ce petit passage de cette expression « tomber dans les mains du Dieu vivant ». Tomber dans les mains du Dieu vivant. En général, quand on tombe dans les mains de quelqu'un, ce n'est pas bon signe. Tomber, en général, n'a rien de positif. Sauf quand il s'agit de tomber sur une bonne occasion, sur un bon plan. Mais le fait qu'il soit reconnu que c'est terrible semble nous dire que ce qui va arriver va plutôt dans le sens d'une action négative. Alors, bien évidemment, le fait de tomber dans les mains de Dieu ne doit pas être pris au sens littéral, je dirais à la main de la lettre. Cela est plutôt une manière de dire qu'il est des moments de notre vie où nous sommes au contact direct avec le divin. Nous sommes dans une relation étroite avec le sacré. Nous sommes en présence de Dieu, et je dirais volontiers, nous sommes dans un face-à-face avec l'Éternel. C'est le moment où nous n'échappons pas à Dieu. Nous n'échappons pas à la question du sacré. Nous n'échappons pas à la question de l'ultime. Cette question s'impose à nous. Elle revient inlassablement, même lorsque nous la rejetons d'un revers de la main. Nous pouvons faire comme René Descartes, douter, passer par le crible du doute, la question de Dieu, la question du sacré. Cette question revient inlassablement, jour après jour, et s'impose à nous. Mais pourquoi utiliser le terme tomber, en grec picto? Si nous laissons de côté les connotations négatives qui se sont accumulées au fil des siècles, nous pouvons considérer que le fait de tomber n'est pas un acte totalement volontaire. Quelque chose s'impose à nous, disais-je il y a un instant. Lorsque nous tombons, c'est le plus souvent par inadvertance. Même lorsque nous décidons de grimper sur le toit d'un métro ou d'une rame parisienne. Lorsque nous tombons, c'est soit par inadvertance, soit sous le coup d'une action dont nous ne sommes pas l'auteur. À moins de se jeter délibérément dans le vide, ce qui arrive parfois. Alors, tomber dans les mains du Dieu vivant, cela peut signifier une situation que nous ne maîtrisons pas totalement. Quelque chose qui nous arrive et qui nous échappe. Nous pouvons même dire que nous échappons à notre propre contrôle. Tomber dans les mains de Dieu n'est peut-être pas sans rapport avec d'autres expressions telles que tomber amoureux, tomber enceinte. Cela nous concerne au premier chef, bien entendu, à chaque fois. Mais nous ne sommes pas totalement seuls dans cette histoire, ni totalement maîtres de ce qui nous arrive. Il faut être deux pour tomber amoureux, comme il faut être deux pour tomber enceinte, même si parfois c'est un peu par procuration. Et la présence de l'autre, la présence de l'altérité est déterminante dans cette histoire. Tomber dans les mains du Dieu vivant peut donc être une manière de dire que la mécanique de la foi nous échappe en partie. Du moins que nous n'avons pas l'initiative de manière exclusive. Cela veut indiquer qu'il ne suffit pas de vouloir être croyant pour l'être effectivement. Nous pouvons y voir là une critique faite à ceux qui pensent que la religion conduit nécessairement au paradis, quelle que soit l'idée dont se fait du paradis, ou que la religion assure inévitablement notre salut, quelle que soit l'idée que l'on se fasse du salut. Comme cet après-midi, vous relirez avec fièvre l'ensemble de l'Épître aux Hébreux, vous verrez à quel point ce texte est immergé dans la question du ritualisme religieux, la question du sacrifice. Eh bien, les rituels sacrificiels, qui a été monnaie courante à l'époque, et qui était organisé au temple de Jérusalem de manière très centralisée et très codifiée, avait déjà été autrefois critiqué par les prophètes d'Israël. Ils le sont à nouveau, en indiquant que le rituel n'assure pas l'accès au sacré de manière automatique. Et mieux que cela, les prophètes et le livre de l'Exode notamment, qui institue les règles sur l'autel ou au lieu des sacrifices, indique bien que c'est l'Éternel qui a l'initiative de la rencontre, et non pas l'homme. La présence de Dieu échappe à notre volonté, même lorsque nous sommes en bonne compagnie, au sein d'une assemblée aussi honorable que la nôtre. La présence de Dieu n'est pas garantie, du moins, elle n'est pas garantie au prétexte que nous ferions tout bien comme il faut selon la divine liturgie adoptée par notre synode national et réinterprétée par notre corps pastoral. La présence de Dieu échappe aussi bien à notre volonté qu'à nos pratiques. D'ailleurs, la Bible hébraïque contient plusieurs fois cet avertissement, c'est Dieu qui est à l'origine de la rencontre et pas l'être humain. Il en découle une conséquence importante dans notre vie quotidienne, y compris dans ses aspects les plus profanes, qui évidemment ne sont pas déchargés de sens religieux. Cela signifie par exemple que le bonheur et la grâce qui accompagnent le croyant, dit le psaume 23, n'arrivent pas au prétexte qu'on le souhaite. Le bonheur et la grâce n'arrivent pas au prétexte que tous les rituels ont été accomplis, comme le fit autrefois Job, qui en faisait même un peu plus pour être sûr de ne pas être pris en défaut de l'égalisme. Dans la vie quotidienne, cette expérience des rédempteurs bibliques est finalement quelque chose d'assez commun. L'expérience nous montre que plus on cherche le bonheur, et moins on le trouve. Il en va de même pour Dieu. La religion révèle sa présence, mais ne le fait pas advenir. La religion ouvre notre conscience aux bienfaits de la vie. Elle nous rend sensibles aux promesses de la vie. Elle ne crée pas le bonheur de toute pièce. La religion nous sensibilise au réel. Elle ne fabrique pas le réel. Mais peut-on parler de bonheur quand on lit que c'est une chose terrible d'être au contact de Dieu? Après tout, nous pourrions lire cette phrase comme une phrase écrite par un redoutable athée qui dirait « Mais c'est vraiment une chose terrible d'être dans les mains de Dieu si Dieu c'est ça, si Dieu c'est ce que nous présente le christianisme depuis des siècles et des siècles. » Sans le Amen. Et peut-on parler de bonheur quand on lit un peu plus loin, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Est-ce que tout cela parle d'une vie véritablement heureuse? Est-ce cela que vous êtes venu chercher ce matin? Moi, je trouve ça assez épouvantable. La première chose que nous pouvons entendre, c'est qu'en tout cas, la foi n'est pas une histoire de piétisme. Si vous voulez être tranquille, faites le guérison et rendez-vous étanche au divin et ne venez plus ici. En revanche, si vous ouvrez la porte de votre existence au divin, alors autant savoir d'avance, cela ne vous laissera pas indemne. Et le fait, ce sera terrible. Parce que pour le dire avec les mots de l'Évangile, ce sera terrible dans la mesure où la foi est une histoire de mort et de résurrection. Commençons par reprendre la citation du Deutéronome qui est faite. Quand nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Le Seigneur jugera son peuple. C'est une citation du Deutéronome, au chapitre 32. C'est un indicateur pour celui qui connaît les textes bibliques, qui lui dit, allez donc voir ce qui se passe dans le Deutéronome. C'est en quelque sorte un mot-clé. Et comme il faut toujours s'intéresser aux sources plutôt qu'aux rumeurs, voici ce que dit le Deutéronome au chapitre 32, au verset 35 à 36. À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leurs pieds chancelleront. Car le jour de leur malheur est proche, et leur destin se précipite. L'Éternel jugera son peuple, il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni soumis, ni libre. Voyez, frères et sœurs, quand on s'intéresse aux sources et qu'on prend le texte dans son intégralité, la tonalité change sensiblement. Dieu n'est plus celui qui va écraser le petit oiseau dans sa main. Dieu est ce qui va restaurer son peuple qui est au bord de l'épuisement, à bout de force, au point de tomber en inanition. Mort et résurrection. Voilà le programme de l'Éternel. Mourir à la vie que nous connaissons pour ressusciter à une vie qui a une autre dimension. Faire le deuil de ce que nous sommes pour ressusciter à ce que nous devenons. Et dans ce cas, c'est effectivement une chose terrible. Une chose aussi terrible que de sortir d'une dépression. Une chose aussi terrible que d'échapper à une addiction. C'est une chose terrible comme toute traversée du deuil. C'est terrible, épouvantable, terrifiant, redoutable. L'entrée dans le deuil est terrible. La sortie du deuil l'est encore plus, car elle est une chute dans l'inconnu, dans la nouveauté, dans ce que nous ne maîtrisons pas, dans ce que nous n'avons pas rêvé d'avance. La vie, selon Dieu qui fait toutes choses nouvelles, a de quoi inquiéter nos esprits affolés par les changements. Songez. Il est question de compassion avec les prisonniers, ceux qui n'ont pas d'existence libre. Et aujourd'hui encore, beaucoup de prisonniers autour de nous, et nous-mêmes. Je parlais d'addiction. Il y a les addictions connues. L'alcool, différents toxiques, mais il y a aussi les addictions à l'argent, les addictions au travail. Il est question de solidarité avec ceux qui subissent de mauvais traitements. Les temps actuels donne la parole à celles en particulier qui subissent de mauvais traitements. N'oublions pas ceux également qui sont victimes de harcèlement et de mauvais traitements. Il est question aussi de relativiser les biens que nous avons au profit de possessions meilleures. Qui a envie de lâcher ce qu'il a pour obtenir quelque chose dont on dit qu'il est meilleur? La règle courante n'est-il pas « un tien vaut mieux que deux tu l'auras » Et tout cela se réalise après que nous avons été éclairés par le texte biblique, c'est-à-dire après une prise de conscience du réel, après avoir compris ce qui a vraiment de la valeur dans notre histoire personnelle et dans l'histoire universelle. L'entrée en deuil est terrible, parce que nous réalisons ce que nous perdons, parce que nous réalisons aussi que ce à quoi nous étions attachés n'était peut-être pas doté d'une valeur aussi grande que ce que nous imaginions. L'entrée en deuil des idées reçues, par exemple, c'est découvrir que nous nous étions peut-être un peu trompés et qu'il faudrait reconsidérer nos jugements. Le deuil des images de Dieu, par exemple, qui nous fait comprendre que nous avions bâti notre foi et notre existence sur des images un peu erronées, qui ne tenaient pas vraiment la route, notamment en cas de gros temps. Et la sortie du deuil n'en est pas moins terrible. Alors, à quoi devons-nous mourir? Eh bien, ce texte nous dit que nous devons mourir à la vie sans effort, à la vie sans notre contribution personnelle, à la domination de quelques-uns sur tous les autres, mourir aux certitudes, mourir au pouvoir suprême des choses qui sont en fait transitoires. Mais ne nous éternisons pas sur ce qui doit disparaître. Portons plutôt notre regard sur ce qui peut advenir. Qu'est-ce qui doit ressusciter? La vie. La vie, tout simplement. La vie à laquelle les textes bibliques nous préparent en l'éclairant de mille feux différents pour que nous soyons effectivement illuminés. Quelle est cette vie? Eh bien, c'est une vie dont le scénario n'est pas écrit à l'avance. C'est une vie dont chacun d'entre nous est l'auteur par excellence. Nulle tranquillité n'est permise dans cette vie-là. Cette vie est une aventure. Et nulle tranquillité n'est permise dans cette vie-là. Cette vie est une succession de découvertes, de projets, de désirs, de ratés souvent, de satisfactions aussi, et de succès tout de même, de temps en temps. En tous les cas, nulle tranquillité n'est permise dans cette vie-là. Cette vie ne peut être simplifiée sans devenir insipide. Et du coup, nulle tranquillité dans cette vie-là. Selon le mot de Georges Cardanos dans son journal d'un curé de campagne, le bon Dieu n'a pas écrit que nous étions le miel de la terre, mais le sel. Or, notre pauvre monde ressemble au vieux père Job sur son fumier, plein de plaies et d'ulcères, du sel sur une peau à vif. Ça brûle, mais ça empêche aussi de pourrir. Il est terrible, frères et sœurs, de tomber dans les mains du Dieu vivant, car cela nous rend terriblement vivants. Cela nous arrache aux clous qui nous crucifient pour que nous tenions bien en place, pour que nous soyons bien fixés une fois pour toutes, que nous soyons fixés sur notre sort en quelque sorte. Être fixé. C'est une expression qui dit bien la tendance humaine au contrôle, cette obsession maladive qui nous cloue au mur de nos projets et annule l'infinité des possibles, écrit Marion Muller-Collard. Ne pas s'arrêter, ne pas abandonner l'aventure, mais la réformer sans cesse, aujourd'hui encore, parce qu'il ne saurait être question de se reposer sur un oreiller de paresse qui serait celui de la gloire de nos ancêtres, de nos pères dans la foi, qui firent de belles choses et de grandes choses il y a 500 ans, mais qui ouvrirent leur propre voie et qui n'indiquent rien de la voie que nous devons ouvrir maintenant. Nulle tranquillité dans cette vie-là. Ne pas vivre au crochet du passé. Ouvrir notre propre voie. Ouais. C'est une chose terrible d'être dans la main du Dieu vivant. La vie selon l'Évangile, est vraiment une chose terrible, terriblement enthousiasmante. Amen.